Les rencontres de Saint-Marcel, le vendredi 9 octobre, présenté par Fanny Bourdin sur Radio Territoria.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Territoria. Les rencontres de Saint-Marcel ont effectivement eu lieu pour une partie le 9 octobre et se prolongent. Et je ne suis pas Fanny Bourdin, c'est Pierre qui vous parle et je suis très heureux aujourd'hui d'accueillir Gilles Clément. Gilles, bonjour.
Bonjour.
Alors, on va dresser très rapidement un portrait extrêmement court de vous. Simplement, en introduction, rappeler ce que sont les rencontres de Saint-Marcel. Les rencontres de Saint-Marcel visent à partager les initiatives qui se passent dans les territoires avec, pour ancrage premier, le département de la Loire, un département de transition composé de nombreuses unités paysagères, qui est un sujet qui va parler à l'intervenant que nous avons aujourd'hui et qui, au fond, n'est pas une très franche ruralité, n'est pas non plus une grande conurbation urbaine. C'est un territoire composé de toute sa diversité. Et c'est bien ça le sens de notre association, c'est de montrer la diversité de ces territoires. Et cette année, nous ne pouvions pas échapper à la crise de Covid-19. Et plutôt que de l'occulter ou d'avoir une analyse trop rapide, nous nous sommes dit que quelques mois après, un peu plus de 6 mois après le cœur de la crise, il était important de parler des actions menées par les uns et les autres dans les territoires, et puis aussi le ressenti d'observateurs qui réfléchissent à l'évolution de notre société. Et le terme, et je rends ici un petit clin d'œil à Pierre Janin qui en est l'auteur, c'est celui des proximités, puisqu'au fond, nous avons vu de nouvelles proximités entre des industriels et le pays, si je puis dire, avec l'épopée des masques, des tissages de Charlieu, et puis un certain nombre d'autres proximités entre voisins à travers la solidarité qui s'est mise en œuvre, entre les producteurs et les consommateurs, mais aussi les artisans dans le monde culinaire et les consommateurs, et puis aussi une proximité avec la nature. Certains disent « homme » avec un grand H, confiné, nature, déconfiné. On a eu une intervention de la Ligue de protection des oiseaux, également de France Nature Environnement, et nous sommes très heureux, dans ce cadre, d'interroger Gilles Clément. Alors Gilles, je vais être très très court dans ce portrait, et je vous prie de m'en excuser. Vous êtes jardinier, vous êtes ingénieur horticole, vous êtes paysagiste, vous êtes un observateur et un acteur du rapport sensible et écologique, si je puis dire, avec la nature sous toutes ses formes. Merci encore une fois d'être avec nous. Et alors, une première question peut-être personnelle, votre confinement, où est-ce que vous l'avez vécu, le premier du nom?
Oui, alors je l'ai vécu chez moi dans la Creuse. C'était une chance, hein, j'y suis plus que la moitié du temps tous les ans. Mais là, j'étais arrivé quelques jours avant la décision de ce confinement et j'y suis resté. Et heureusement, c'était plus facile à vivre. C'était un peu isolé, évidemment, parce qu'en plus, dans la Creuse, on n'est pas dans un territoire peuplé, mais c'était quand même une chance.
Et alors, à titre personnel, comment est-ce que vous avez ressenti cette période? Vous parliez d'isolement dans le rapport aux autres. Vous avez un jardin très conséquent, un jardin ouvert. Voilà. Comment est-ce que vous avez perçu, vécu cette période?
Je l'ai vécu, disons, avec une certaine sérénité et plutôt dans une position d'équilibre. C'était très, très agréable, sauf en fin de journée où il manquait des humains. Mais c'est très important, cette chose-là. On ne se rend pas compte à quel point on a besoin du regard des autres pour être heureux. Cela dit, j'avais bien sûr un peu le regard du renard, celui des chevreuils, parce que quand même j'en ai croisé beaucoup, et c'était très agréable, hein. Mais pas tout à fait suffisant, voilà, c'est tout. Et j'ai eu la chance d'avoir l'espace, à la fois un jardin dont je m'occupais, à la fois un territoire libre où les animaux s'exprimaient.
Donc ces nouvelles proximités dont on parlait tout à l'heure, comme vous vivez une bonne partie de l'année dans ce jardin, est-ce que ça a évoqué quelque chose de nouveau ou finalement c'est la continuité, les humains en moins, de ce que vous vivez d'ordinaire dans votre Creuse?
Ben, c'était un peu la même chose parce que moi je ne me rendais pas compte qu'en réalité je vivais avant le confinement, depuis des années, dans exactement la même situation, c'est-à-dire on fait ses courses à une fois par semaine et encore peut-être tous les 2 semaines parce que ça suffit. Il y a un potager, on ne voit pas énormément de monde, mais on les voit de façon amicale, sérieuse, et c'est tout à fait différent donc, que ce qu'on peut voir ailleurs dans une situation superficielle, parfois dans les villes et ailleurs. Mais bon, ça n'avait pas vraiment changé. Et ce qui avait changé, c'est l'ambiance. C'est ce qu'on avait finalement dans la tête, la crainte. Mais en réalité, pas la vie de tous les jours. Et puis, je le disais quand même, et ça, c'était un changement, le fait que on se retrouvait relativement isolé. Même si on arrivait quand même à avoir quelques échanges avec les voisins, la proximité en question, elle est une chose qui a existé avec plus de force. Et ça, c'est vrai. J'ai découvert d'ailleurs des producteurs de yaourt de brebis et d'autres choses que je connaissais même pas, et c'était incroyable. Bon, voilà, on a eu des nouveaux contacts à peu de distance, hein. Ça, c'est vrai. C'est vrai que ça a remis des gens en relation, mais c'est pourquoi pas une dynamique intéressante et importante. Moi, ce que j'ai analysé dans cette phase-là, c'était plutôt une espèce de confirmation du fait qu'il y a une possibilité de vivre pour beaucoup plus de gens qu'on ne le croit dans une consommation extrêmement réduite. Transport réduit. Pas de choses à acheter parce qu'on n'en a pas forcément besoin. Bon, quand on est dans un espace rural, on n'est peut-être pas vraiment des grands consommateurs. Moi, j'ai cette habitude-là, donc je ne le suis pas. Mais je pense que d'autres peuvent accéder à ça. Et je crois que ce qui a fait peur, véritablement très peur, à nos gouvernants, c'est le fait que l'on pourrait accéder finalement à un modèle économique qui n'est pas celui qu'ils désirent et qui fait la richesse de ceux qui nous dirigent. Bon, ça, je pense qu'ils ont eu très peur, ils continuent d'avoir très peur, parce que c'est en effet une possibilité. Je ne dis pas que ça va éliminer totalement le capitalisme mondialisé aujourd'hui, ce genre de choses, mais il est certain que sur la planète, ce Covid nous unit dans une vision du monde différente. Il nous met en inquiétude, mais il nous unit, il ne nous met pas en guerre. Il nous met évidemment en inquiétude, ça ne fait pas de doute. Il y a des gens qui meurent, mais enfin, nous sommes tous soumis à la même question. Alors ça nous remet plutôt dans le contexte du jardin planétaire que dans une situation qui serait avec des frontières.
Et vous parliez d'espace. Alors c'est aussi dans son lopin personnel avoir la possibilité de cheminer, de respirer. On a vu la difficulté, la double peine, entre guillemets, notamment pour les plus pauvres. Il faut donner le mot d'entre nous, qui vivent dans les conurbations urbaines, pas forcément dans les jolis, entre guillemets, centres urbains, qui vivent dans les périphéries, dans une densité qui la dispute parfois à la promiscuité et qui était privée du peu d'accès à des espaces ouverts, que d'aucuns qualifient des espaces verts. Comment est-ce que vous percevez ça? On ne sait pas encore, au moment où nous enregistrons cette émission, comment va se passer la deuxième phase de confinement et si nous aurons accès, les urbains auront accès à ces espaces. Mais au fond, est-ce que tout le monde vit là où il voudrait vivre? Est-ce que ce n'est pas aussi un signal sur les territoires qui est donné que cette crise?
On m'a demandé quel était mon point de vue le jour où le gouvernement a décidé l'ouverture des parcs et des jardins vers la fin du confinement. Alors j'ai donné mon point de vue en disant que c'était plutôt une bonne idée, mais que je ne comprenais pas pourquoi on les avait fermés. Je ne comprends pas. C'est quelque chose de très très illogique. Qu'on soit en danger de contamination avec une proximité, ça on peut le comprendre. Dans un espace où l'air circule assez librement, alors est-ce qu'il y a une transmission du Covid à distance? C'est pas ce qui a été prouvé jusqu'à présent. Donc on peut laisser les parcs ouverts. Cela dit, c'était je ne sais plus sur quelle radio, et on m'a immédiatement censuré. On a dit non, on ne peut pas continuer, et on a coupé. Donc je ne devais pas être dans le point de vue établi. Voilà. Bon, après, j'ai dit ce que je pensais.
Mais voilà, et c'est aussi une tribune qui est offerte que d'exprimer chacun son regard, y compris sur les modèles économiques. La crainte des modèles économiques peut être détonnante de certains modèles, mais aussi de celles et ceux qui vivent dans ce système. Et il n'est pas tout à fait évident, pour venir du monde rural, la grande évolution et le grand progrès social il y a 30 ans, c'était d'aller faire les courses toutes les semaines à l'hypermarché. Je l'ai personnellement vécu et c'était une forme d'aboutissement, y compris dans le milieu agricole dont je suis originaire. Et les mêmes personnes aujourd'hui, que je salue, mes parents en l'occurrence et beaucoup d'autres, reviennent à un mode de vie qui est un petit peu différent. Voilà. Je vous remercie pour votre franc-parler et à chacune et à chacun de se faire son opinion. Nous avons la chance encore de pouvoir débattre, c'est-à-dire d'avoir des échanges et pas chacun dans son couloir, de trouver des accroches et de ne pas toujours être parfaitement d'accord. Donc sentez-vous libre de vous exprimer ici. Alors, vous nous dites, vous avez vu quelques voisins découvrir des choses malgré une solitude plus forte, peut-être des liens plus resserrés avec vos voisins. Qu'est-ce qui a changé, qui serait resté dans votre mode de vie depuis cette période-là, ou alors le train-train d'avant, entre guillemets, a repris ses droits?
Non, le train-train n'a pas repris ses droits. Il y a eu un petit changement qui est justement la possibilité d'aller chercher ce dont on a besoin et que l'on ne peut pas produire soi-même, auprès de gens qui en sont les producteurs directement. C'est quand même une possibilité pour ceux qui produisent, qui sont les mains dans la terre ou qui élèvent, de gagner un peu d'argent, mais un peu plus que s'ils le vendaient à des distributeurs, c'est-à-dire d'être payés réellement au prix qui est convenable. C'est celui qui est logique. On devrait d'ailleurs, d'une façon générale, dépenser plus d'argent pour la nourriture qu'on ne le fait encore même aujourd'hui. Parce que quand on voit ce qui a été dépensé à une certaine époque et ce qu'il y a aujourd'hui, on consacre une somme bien, bien supérieure et même considérable à des outils en obsolescence programmée, tout prévu, évidemment, qu'on nous oblige à acheter parce qu'on nous dit c'est ça qu'il faut, c'est la pub, mais ils ne servent à rien. Alors que manger, on ne peut pas faire autrement. Boire de l'eau potable, on ne peut pas faire autrement. Donc, ça a remis l'accent sur les urgences vitales et je trouve que c'est vraiment très intéressant. Bon, c'est dommage que ça se passe à l'occasion d'une crise sanitaire, mais enfin, c'est important.
On l'a vu, on a évoqué ces sujets, notamment avec les représentants de supermarchés dans le département de la Loire, de petits supermarchés et d'épiciers, enfin, quand je dis petits, de taille moyenne. Et les épiciers ont eu notamment une vague très très forte de fréquentation. Ils ont été, pour reprendre le vocabulaire martial, en première ligne. Et puis, ça a été un peu la douche froide juste après le déconfinement, puisque les habitudes plus classiques de consommation ont repris. C'est pas tout à fait, en effet, ce que nous disent les producteurs qui, eux, sentent que même si certains clients qu'ils avaient pendant le confinement ont repris de fait des horaires qui ne sont plus compatibles tout à fait avec les marchés, ont aussi changé leur méthode de distribution en organisant une distribution orchestrée par SMS, par téléphone, sur rendez-vous, qui sort un peu des schémas établis qui ne peuvent pas être compatibles avec les modes de vie de tout le monde. Et il semblerait, effectivement, et ça c'est un signal positif, nous verrons à long terme que 6 mois après le premier confinement, ces modes de consommation aient évolué de manière durable.
Très bien.
Alors, Gilles, oui, il faut être, soyons positifs, et c'est vraiment l'ambition que nous avons de relater des initiatives. Je vous invite à écouter l'interview de Magali Chabot, qui est agricultrice à Saint-Marcel-de-Féline, puisque les rencontres de Saint-Marcel se nomment ainsi en raison de son ancrage au château de Saint-Marcel-de-Féline et avec tout le territoire environnant. Gilles, vous avez cité le jardin planétaire. Alors, ça parle beaucoup aux jeunes paysagistes ou en tous les cas férus de nature que je suis. Ça parle peut-être moins pour les publics de cette web radio, Radio Territoria. En quelques mots, C'est très difficile de le résumer, mais qu'est-ce que c'est et l'allusion que vous avez faite en écho avec cette crise que nous avons vécue?
Le jardin planétaire, c'est la planète considérée comme jardin pour trois raisons. La première est la définition même du mot. Le mot jardin signifie un enclos à l'intérieur duquel on met le meilleur, le plus important. Et dès le début de l'histoire même du jardin, ben, c'est vivrier. C'est d'ailleurs le lieu de l'accélération du brassage planétaire parce qu'on importe des plantes qu'autrefois, en tant que nomade, on allait ramasser le long d'un parcours. On les plante là et au fur et à mesure, on est allé les chercher de plus en plus loin. Hein. Les tomates, les pommes de terre, ça ne vient pas de chez nous, il y en a partout chez nous. Donc on est dans ce système-là avec un enclos. L'enclos aujourd'hui sur la planète, c'est la biosphère, c'est-à-dire les limites de la vie, qui est une espèce de couche de vivant qui en fait est dans l'eau. On est dans l'eau, hein. L'eau de l'air, on ne la voit pas toujours parce qu'elle n'existe pas forcément visuellement, mais elle est là. On ne pourrait pas vivre sans cette eau. L'eau qu'on boit, elle a déjà été bu plusieurs fois par des plantes, des animaux et des humains. On la rejette, ça s'en va, ça fait des nuages qui retombent avec la pluie, mais on ne sait pas où elle va tomber parce qu'il y a des courants qui poussent les nuages. D'où vient la pluie qui nous tombe dessus? On est dans le même bain, on nage tous dans ce bain-là, donc c'est notre point commun. On ne peut pas vivre sans eau et on est tous dans le même bain. Et le Covid le montre extrêmement bien, et il faut le dire. Donc, la définition du mot « enclos ». Le deuxième, c'est le brassage planétaire. Partout, comme à l'intérieur d'un petit jardin, partout sur la planète aujourd'hui, les plantes et les animaux arrivent d'ailleurs et se mélangent à ces plantes et ces animaux qui étaient là un peu avant eux, mais pas depuis toujours. Et ça finit par créer des écosystèmes émergents, c'est typiquement le jardin. Et puis la troisième raison, c'est la couverture anthropique. Le jardinier, c'est-à-dire l'homme présent, le jardinier, il est partout sur son terrain. L'homme, aujourd'hui, on est nombreux sur la planète, donc l'humanité, je veux dire, hein. Et ça veut dire, même là où on ne met pas les pieds, où on ne va pas, on sait ce qui s'y passe, parce qu'on a des drones, des analyses, des choses comme ça, capacité de savoir à peu près où on est. C'est vraiment un petit espace, notre planète. Nous sommes dans un jardin. Si on dit ça, alors à ce moment-là, on nomme la totalité des passagers de la Terre comme étant jardiniers. Bon, là, ils ne le savent pas forcément. Et ils n'en ont pas ni la conscience, ni la manière, ni les gestes pour ça. Mais certainement, ils ont une action comme le jardinier. Ils ont une action non seulement sur le terrain sur lequel ils sont, ils habitent, mais aussi sur la totalité de l'espace qui s'appelle la biosphère, parce que ça, c'est l'effet papillon. On ne peut pas faire autrement. Quand on pollue tout. Hein. Pas seulement le petit carré où on est. Voilà. Bon, ça, je ne vais pas finir là-dessus parce que ce n'est pas rigolo. Mais disons qu'on peut imaginer qu'on éviterait de polluer et à ce moment-là, on est gentil pour tout. Dans notre métier, je dis parfois que si on ne fait rien, je dis bien dans notre métier, c'est-à-dire jardinier, paysagiste, bon, si on ne fait rien, on est utile à tous. Je répète, hein, si on ne fait rien, on est utile à tous. Pourquoi ? Parce que si on ne fait rien, on fait une forêt. Sauf dans quelques zones désertiques sur la planète, c'est toujours comme ça que ça finit. Et si on fait l'évolution une forêt, maintenant, on fait de la tisane, on en a besoin, on le partage.
Donc, c'est pas dangereux. Non, merci pour cette mise en perspective pour nos auditrices et nos auditeurs. Alors, j'ai deux dernières questions, ou plutôt une question et puis une carte blanche pour vous. Il y a une question qui devient un lieu commun, un vocable qui, à force d'être usité, n'a pas fait long feu, qui est celui de monde d'après. Nous sommes dans le monde d'après, mais en même temps dans le monde de dedans, puisque cette crise est un peu, pour reprendre les propos présidentiels, une histoire sans fin. Et probablement que la crise climatique, les crises sociales et économiques que nous vivons conjuguées vont se répéter. Et peut-être que les prédicateurs, même scientifiques, n'imaginaient pas, et ils le disent, qu'elle serait d'une violence telle et à une échéance aussi brève. Ma question pour vous, c'est le monde d'après, comment le voyez-vous ?
Le monde d'après, je le vois à partir des oursons métis. Je vous explique. Les oursons métis, c'est pas moi qui propose la notion, c'est Baptiste Morisot. qui, en tant que traceur, observateur, philosophe, naturaliste, enfin bon, constate qu'avec le réchauffement climatique, les oursons, qui sont des grizzlies, et les autres, qui sont des polaires, finissent par se rencontrer, ce n'était pas prévu. On pensait qu'ils s'étaient différenciés, mais pas suffisamment pour finalement avoir quand même des bébés, ils en ont. Et les petits qui naissent arrivent dans un contexte qui est le leur. Ils n'ont pas connu le traumatisme que les parents ont connu dans cette mécanique extrêmement rapide du réchauffement. Ce sont eux, c'est le constat, hein, ce sont eux qui apprennent aux parents comment il faut faire pour vivre. Ce que je vois aujourd'hui, c'est que les jeunes, bon, il n'y a pas que, évidemment, comment elle s'appelle, j'ai oublié son nom, la jeune...
Greta Thunberg.
Greta, il n'y a pas que elle, il y en a plein qui ont cette conscience. Je travaille beaucoup avec des jeunes et des étudiants, je vois bien qu'ils ont compris qu'il fallait qu'on arrête de vivre de la façon, dans le système de la consommation abusive, ça n'a pas de sens. On n'a pas les moyens, on n'a même pas l'espace pour ça. Donc, ils savent qu'il faut vraiment changer. Donc, je vois les choses de cette façon-là. Ça n'empêchera pas qu'il y ait, au cours de la fonte du permafrost et d'autres choses, d'autres pandémies difficiles à vivre, des choses brutales et qui vont nous abîmer, ça ne fait pas de doute. Mais bon, on doit se préparer à évoluer et à vivre autrement, ça c'est absolument indispensable.
Et alors pour conclure, à défaut de questions, je me disais qu'une carte blanche, voilà, un sujet que vous aimeriez évoquer, soit un coup de cœur ou un coup de griffe du moment, ou une publication, ou un projet, que sais-je. Voilà, je vous laisse la parole et c'est à vous la conclusion et puis je ferai la conclusion de forme qu'il convient d'avoir pour remercier, vous remercier et remercier nos auditeurs, mais la parole est à vous, Gilles.
Bon, merci pour cette parole que vous me donnez. Alors moi, je pense à c'est un petit texte que j'ai fait, mais je ne me vends pas là, hein, c'est pas pour ça, hein. C'est simplement parce que c'est quelque chose que j'ai envie de dire. L'effaceur est mandaté par l'institution, donc c'est une nouvelle, hein, c'est une fiction, hein. Et alors, il doit enlever des mots, parce que les disques durs, les dictionnaires sont trop chargés. Il fait un choix. Et parmi eux, il y en a un qui m'intéresse plus que là pour cette discussion aujourd'hui, c'est l'effaceur qui décide d'enlever le mot « expert ». Un expert, il explique la raison pour laquelle il l'enlève, hein. Alors, il y a une scénographie particulière, alors ça se passe sur un port pour ce mot-là, il met le mot expert sur le bateau, sur la coque d'un petit voilier, mais il fait venir l'expert de réparation de voile, parce qu'il y a des trous, etc. Alors l'expert arrive, hein, et il fait la réparation, sauf qu'il n'a pas vu qu'il y avait un trou dans la coque. Donc le bateau coule, l'expert avec, le mot avec, disparition du mot, supprimé des dictionnaires et des disques durs, c'est pas mal. Mais pourquoi je dis ça? Pourquoi je pense à ça? C'est parce que on met dans un chemin d'une grande étroitesse et ceux qu'on appelle des spécialistes et des experts. Et alors donc, ils ont des œillères, ils ne voient pas forcément ce qui se passe à droite et à gauche, mais c'est pire que le GPS. Le GPS, déjà, c'est un drame. On ne regarde plus le paysage. On perd la mémoire visuelle. On suit la flèche. On obéit. Mais pourquoi on nous demande d'obéir à ce point? Pourquoi accepte-t-on d'obéir à ce point? Tourner à droite dans le rond-point, alors qu'il n'y a même pas de route à droite. C'est tout droit, mais simplement, il y a un rond-point au milieu, et alors il faut. C'est stupide. On nous dit des choses, mais. Et puis finalement, on tombe dans un trou parce que le GPS, il n'a pas vu qu'il y avait le trou. Donc, il y a quelque chose là qui ne va pas. C'est notre niveau d'obéissance. Si on ouvrait les yeux pour accéder à un chemin qui est celui que l'on va se tracer, et non pas que l'on nous donne à suivre, on accède à une autonomie obligatoire. C'est comme de fabriquer sa nourriture. Mais c'est. Plus que ça, c'est global. Donc c'est à ça que je veux en venir. C'est comment fait-on à la fois pour s'équilibrer dans la vie, mais aussi pour accéder à une autonomie de pensée et d'action. Et non pas se laisser faire comme, je ne sais pas, ça n'aime pas de mots, mais disons se laisser robotiser par les robots. parce que c'est aussi quand même quelque chose comme ça. Je suis très inquiet de voir la force que peuvent avoir les outils qui sont ceux de les écrans, quoi, en gros, hein, c'est beaucoup les écrans, et qui manipulent des gens jeunes. Quelques-uns s'en rendent compte, heureusement, et se sortent un peu de là, mais c'est extrêmement dangereux parce que c'est très, très puissant. Et ça nous fait perdre quelque chose qui est notre autonomie. On s'aperçoit, quand on étudie l'histoire des humains, que Néandertal avait un cerveau un peu plus gros que le nôtre. Mm-hmm. Parce que, justement, il n'avait pas encore eu accès à l'illusion de la maîtrise et que lui, il était dans l'obligation de repérer à distance, comme le font les animaux, certains d'entre eux. Nous avons perdu cette capacité-là, ce qui peut être un danger ou au contraire quelque chose de facile et de vivable. On doit évoluer de ce point de vue-là.
Bien, merci beaucoup Gilles pour cette carte blanche. Sous la forme d'une petite nouvelle, je pensais, en parlant des généralistes, des observateurs, à Théodore Monod et à cette jolie chanson d'Alain Souchon, « La vie Théodore », que je vous invite à écouter. Elle est assez douce et je pense qu'elle se prête bien à cette prise de recul à laquelle vous nous incitez. Merci à nouveau pour votre liberté de ton. Vous avez exercé cette prise de parole et le fait de ne pas être moutonnier tout au long de cet entretien et pour celles et ceux qui sont vos lecteurs fidèles, nous ne sommes pas déçus, donc merci beaucoup Gilles Clément pour cet entretien.
Merci à vous et merci aux Jeannins, les frères.
Et merci aux frères Jeannins, absolument, qu'on salue ici et qui vont, je pense, écouter avec attention et visualiser grâce à l'outil numérique, c'est un des avantages, notre entretien à bonne distance aujourd'hui. Merci encore Gilles Clément. Je rappelle, entre autres choses, que vous êtes, entre autres métiers, pardon, j'en perds mon latin, que vous êtes jardinier, que vous êtes ingénieur horticole, paysagiste et on l'a vu aussi, un penseur, un acteur et un observateur de notre société. Merci beaucoup. Chères auditrices, chers auditeurs, vous pouvez continuer à écouter et à réécouter les différents entretiens menés dans le cycle 2020, cette année si particulière des rencontres de Saint-Marcel sur Radio Territoria. Merci à tous, à très bientôt.
Les rencontres de Saint-Marcel, le vendredi 9 octobre, présentées par Fanny Bourdin sur Radio Territoria.